musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Rotten.
Sugar!
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir, et bienvenue à notre rendez-vous mensuel du Centre français des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir chaque mois la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, notre émission musicale sera consacrée à la musique juive éthiopienne. À l'heure où nous fêtons les 20 ans de la grande alia de cette communauté juive d'Éthiopie, il était bien naturel de consacrer une émission à cette communauté et ses musiques. Et pour nous accompagner tout au long de cet itinéraire musical, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Olivier Tourny, musicologue, ethnomusicologue au CNRS et à présent directeur du Centre de recherche français à Jérusalem. Olivier Tourny a publié en 2010 aux éditions Peters un livre tout à fait passionnant sur le chant liturgique juif éthiopien, analyse musicale d'une tradition orale, dans lequel il décrit de manière très pédagogique l'étonnante tradition musicale des juifs d'Éthiopie. Olivier Tourny, bonsoir.
Bonsoir.
Écoutez, je vous propose, afin de nous pénétrer dans cet univers musical si particulier, d'écouter dès à présent un extrait de cette liturgie, un Alléluia.
Alléluia.
Extrait de l'office de Rosh Hashanah, office du matin, un Alléluia dans le rite des Juifs d'Éthiopie. Olivier Tourny, bonsoir.
Bonsoir.
C'est une musique bien particulière que nous venons d'entendre. Je suis sûr que nos auditeurs ont rarement ou jamais entendu une telle musique. Signalons que beaucoup d'extraits que nous entendrons ce soir sont directement extraits du disque publié par Ovidis dans la collection Inedi qui s'appelle Liturgie des Juifs d'Éthiopie, disque publié en 1990, mais qui présente un témoignage vraiment intéressant de cette musique, un des rares disques d'ailleurs. Alors Olivier, vous êtes un des experts, je dirais l'expert numéro un presque de cette liturgie des Juifs d'Éthiopie, puisque vous avez consacré de nombreuses années à l'étude de cette musique. Vous avez notamment effectué une thèse, vous continuez vos recherches au CNRS de Jérusalem sur cette communauté juive éthiopienne, mais vous nous direz par la suite pas seulement juive, sur la psalmodie plus généralement. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est cette musique qui sonne, enfin pour une musique juive, on est terriblement surpris, on peut se poser la question, musique juive, musique africaine, peut-être un peu des deux, mon capitaine, mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, avant de rentrer dans le système musical lui-même, d'où vient cette communauté des Juifs d'Éthiopie ?
Alors je ne sais pas, Hervé, si vous voulez commencer par Bereshit, mais on a... une quantité incroyable au XXe siècle d'études sur cette communauté effectivement singulière qui a vécu pendant des siècles sur les hauts plateaux d'Éthiopie, ce qu'on appelle l'Abyssinie historique. Donc vous êtes à 500 km au nord d'Addis Abeba actuel, qui est au centre du pays, et à 500 km au nord, vous êtes au pied des montagnes du Sémienne. Et là, vous aviez des dizaines, des centaines de villages éparpillés dans les montagnes du Sémienne, avec une communauté qui se regroupait annuellement, le plus possible, pour le pèlerinage annuel, mais qui vivait de façon le plus souvent autarcique. Alors bon, évidemment, on se demande, et on n'a pas été d'ailleurs les premiers à se poser cette question, d'où viennent ces gens ? D'où viennent ces juifs, noirs, éthiopiens, dont finalement on a entendu parler qu'au début du XIXe siècle. Alors, les historiens en ont entendu parler au début du XIXe siècle, précisément quand une association chrétienne protestante anglaise s'est mise en tête de vouloir convertir cette communauté particulière. Donc cela a ému évidemment la communauté juive de par le monde, essentiellement l'Alliance israélite universel à Paris, qui a envoyé un premier émissaire, Joseph Halevi, et Joseph Halevi ensuite a emmené son disciple, Jacques Feitlovitch, qui est allé voir cette communauté qu'il, à l'époque, il considérait comme une secte du judaïsme qui avait été oubliée par l'histoire.
Là, on est à peu près dans le dernier tiers, je crois, du 19e, vers les années 1865-70, quelque chose
voilà,
comme ça.
Voilà, absolument. Et puis même Feitlovitch a vécu une première partie du 20e siècle et a été très actif. Alors, son objectif, c'était une sorte de retour de cette communauté à une sorte de genre de judaïsme un peu normatif.
Oui, parce que cette communauté, ce qui est assez étonnant, c'est ce que vous dites fort bien dans votre livre, elle a des rituels, des coutumes qui sont indéniablement juives et conformes au canon juif, mais par exemple, elle n'a pas tous les écrits que l'on trouve dans le judaïsme normatif actuel.
Oui, effectivement. Alors en fait, ça a été le gros problème des rabbins au fil des siècles. On a des responsas déjà anciennes, du 17e, 18e. Et cette communauté a été considérée comme juive, finalement, assez tardivement, parce que c'est dans les années 70, 1972-73, que le Rav Ovadia Yosef a reconnu leur judéité, suivi un an après par le grand rabbin Ashkenaz. Alors, leur origine, il y avait trois théories. La première, c'était une partie de la communauté juive, enfin des Hébreux, qui... entre la destruction du premier et du deuxième temple, serait parti et serait descendu soit par l'Éléphantine, c'est-à-dire le sud de l'Égypte, soit par le Yémen. Sachez que, si vous voyez une carte, le Yémen et l'Éthiopie, c'est un petit coup de bateau, donc c'est très proche. Donc une communauté qui serait venue directement du temple. Ce qui expliquerait pourquoi... Chez eux, il n'y a pas de coutume, pas de tradition, pas de fête post-biblique. Donc, ils ont chez eux une sorte de judaïsme qu'on pourrait appeler biblique originel.
C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu l'influence du Talmud, de la Mishnah.
Ils ne connaissent pas ni le Talmud, ni la Mishnah. Donc ça, c'était une première théorie. La deuxième théorie, c'est une théorie autochtone. L'Éthiopie chrétienne est une Éthiopie très proche d'un christianisme originel très très proche de la Torah, et il y aurait eu au XIVe siècle une partie de cette communauté, une toute petite partie de cette communauté, qui aurait décidé de revenir à la foi mosaïque. Et troisième théorie, qui est une théorie qui est encore en vogue aujourd'hui, d'un processus qui serait un processus intermédiaire, une sorte de cristallisation de populations éparses dans le nord du pays qui auraient donné naissance à ces juifs d'Éthiopie. Alors, permettez-moi de venir sur un point qui me paraît important, c'est l'appellation des juifs d'Éthiopie, qu'on appelle Falasha, qui sont connus comme Falasha.
Exact.
Mais Falasha est un terme péjoratif en amharique, dans la langue du pays, qui veut dire l'étranger, l'autre, celui qui n'avait pas le droit de posséder la terre. Donc c'est une appellation que je n'utilise pas et que je préfère appeler celle de Beta Israël, maison d'Israël.
Alors je vais vous suivre dans cette voie. Donc on utilisera le terme de Beta Israël pour désigner cette communauté tout à fait spécifique. Et écoutez, c'est absolument passionnant. Avant de continuer, je vous propose peut-être d'écouter tout de suite un autre extrait musical. Il s'agit d'une pièce, alors vous me corrigerez, je ne parle pas d'ailleurs, je ne sais pas si c'est l'amharique ou la langue spécifique, le guéez, mais vous me corrigerez, qui s'appelle Ba'atidou Kedush Kedush.
Ba'atidou Kedush Kedush.
Voilà, il fallait la voix du maître.
Bahate to das kodwasa Bahate to das kodwasa Bahate to das kodwasa Bahate to das kodwasa Bahate to aman kodwasa Bahate to das kodwasa Bahate to aman kodwasa Watar ho akhar ho
Une prière du matin. Alors, Ba'atidou Kedush Kedush, j'espère que je prononce bien. C'est une langue un peu étrange, Olivier Tourny, dans laquelle c'est chanté. On ne connaît pas du tout d'hébreu. Quelle est cette langue?
Oui, alors ça a été la grande question. C'est toujours la grande question qui a posé problème aux historiens et pas uniquement aux autorités rabbiniques d'Israël. C'est le guez. Le guez, c'est une langue sémitique qui était la langue parlée du royaume aksumite du nord d'Éthiopie et un royaume sémitique. Donc, la période, c'est moins 4e siècle de notre ère, plus 4e siècle de notre ère. Et c'est une langue qui, petit à petit, a essaimé en Abyssinie et qui a été reprise par les chrétiens d'Éthiopie et qui a été aussi reprise par les juifs d'Éthiopie. N'oublions pas que les chrétiens d'Éthiopie, jusqu'au 4e siècle, du fait de la théorie du roi Salomon et de la reine de Saba, se sont considérés et se considèrent juifs jusqu'au 4e siècle.
Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a le fameux roi Ménélique qui serait donc le descendant donc de la reine de Saba et du roi Salomon, qui serait revenu donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie et aurait perpétué là-bas le judaïsme, en fait.
Oui, absolument, et même dans la tradition chrétienne, et d'ailleurs c'est physique, il y a une église dans le nord de l'Éthiopie, à Aksum, qui est censée abriter l'Arche d'Alliance.
C'est formidable. Alors, oui, cette pièce qu'on a entendue, l'ambiance est vraiment très africaine. Elle est mesurée. Est-ce qu'elle est dansée? Enfin, comment s'organise un peu ce temps ici? En fait, comment pourriez-vous qualifier cette musique qu'on vient d'entendre?
Vous êtes spécialiste des musiques juives, donc pour vous. vous savez combien les musées de musique juive ont été très attirés par les pays dans lesquels elles se sont épanouies. Donc, absolument. Effectivement, quand vous parlez d'ambiance africaine, on peut dire, je dirais plutôt vraiment ambiance éthiopienne, connaissant l'Éthiopie, et ambiance de l'Éthiopie du Nord, c'est-à-dire vraiment d'Abyssinie, ce qui n'a rien à voir avec le Sud éthiopien. Alors, effectivement, une musique qui peut être dansée, une musique qui est festive, et effectivement, lors des Shabbats et lors de grandes fêtes, les prêtres, leurs élèves, la liturgie s'organisait, ou les éléments paraliturgiques s'organisaient autour de la danse. Alors, une danse très simple, on danse en cercle, et parfois on a son bâton pour se tenir, pour prier, bâton de prière qu'on retrouve en Éthiopie. On frappe avec, de temps en temps, j'allais dire, on frappe la mesure, en tout cas, et on danse, et c'est une musique, effectivement, qui peut être extrêmement mesurée, mais vous allez voir qu'on a aussi des musiques qui sont totalement libres, qui ne dépendent pas de la danse.
En fait, c'est un peu l'équivalent, vous me permettrez une comparaison, de la danse racidique, mais dans un tout autre registre. Et c'est assez passionnant parce que c'est vrai qu'on connaît peu de choses de cette danse, même à la période biblique, on sait qu'il y avait de la danse. Mais là, quand même, la danse qui interfère dans le culte, c'est quand même une des rares traditions, à part donc les traditions dont j'ai parlé liées au racidisme, où il y a vraiment présence de danse pendant la liturgie. Et même, on l'entendra par la suite, pendant les offices les plus sacrés, même de l'année juive. Alors, j'ai envie de vous poser encore une question. On a entendu des voix, mais quels sont les acteurs de ce chant-là? Vous parlez, enfin, qui chante, en fait? Est-ce que c'est la communauté dans son ensemble? Comment c'est organisé, tout ça?
Alors, en fait, c'est extrêmement organisé. Alors, il y a certains aspects du judaïsme éthiopien dont on n'a pas parlé, ce qui, pour certains, était une raison pour dire que ces gens ont été des anciens chrétiens qui sont convertis au judaïsme, à savoir la première chose dont on a parlé, la langue guèze. C'est la seule communauté juive, à ma connaissance, qui ne chante pas et qui ne prie pas en hébreu. Or, je vous ai expliqué que la langue guèze était avant tout une langue du royaume aksumite qui a été très influencée par le judaïsme. Donc ça, c'est une première raison. Deuxième aspect de la question, c'est qui chante. Donc qui chante, ce sont les personnes qui sont spécialisées, qui sont consacrées à ce chant et qui sont consacrées au rituel. Donc qui sont-ils? Deuxième aspect, après le guèze particulier de ce judaïsme, il y avait un ordre monastique, il y avait le monachisme dans le judaïsme éthiopien, c'est-à-dire des moines, ou plutôt des ermites, qui étaient tout en haut de l'échelle liturgique, religieuse de cette communauté. Alors là aussi, les gens disent, ça c'est typiquement juif, alors que si vous regardez dans le judaïsme ancien, il existait la tradition des nazirs, donc,
c'est vrai que le terme moine tout de suite est connoté religion chrétienne et c'est un petit peu étonnant. Alors vous voulez dire en fait que vous aviez des moines et des véritables monastères où on apprenait en fait cette liturgie, c'est cela?
Alors du monastère, en fait c'était dans des villages plus ou moins importants qui avaient des centres liturgiques où vous aviez effectivement des hommes particulièrement saints qui ne se mariaient pas, mais comme je vous dis, qu'on peut rattacher à cette tradition de nazir. Un des nazirs les plus connus dans la Bible, c'est Samson.
Mais alors attendez, pour être sûr de bien comprendre, ça veut dire qu'en fait le rite était réservé à une poignée d'initiés en quelque
sorte? Absolument. C'est ça qui est très particulier dans ce judaïsme, c'est que la communauté ne participe pas au rite. La communauté assiste au rite. De temps en temps, il y avait les you-you des femmes, quand c'était des chants de joie, des fêtes particulièrement joyeuses. Les hommes pouvaient, s'ils connaissaient les chants, s'ils connaissaient la langue, parce qu'en fait, on arriverait un petit peu à l'équivalent d'un latin d'église en Occident. S'ils connaissaient la langue, ils pouvaient chanter. Mais ceux qui conduisaient le chant, c'était les moines. Et puis, quand les moines ont disparu, courant 19e, 20e siècle, début 20e siècle, ce sont les prêtres qui ont pris le relais. Et donc, ce sont les prêtres qui conduisent le chant.
Très bien, mais je vous propose d'écouter dès à présent un troisième extrait de cette liturgie si particulière.
Voilà.
Prière Vane Vavuo, pardon, extrait de l'Office du matin de Rosh Chodesh, toujours du disque Liturgie des Juifs d'Éthiopie, publié par Ovidis, un disque magnifique de 1990 que l'on trouve encore aujourd'hui dans le commerce. Olivier Tourny, j'ai envie qu'on rentre un petit peu plus dans l'aspect musical à proprement parler, parce que ce qui est tout à fait passionnant et différent des autres liturgies, c'est justement la forme musicale, pas uniquement la forme, mais la forme musicale qu'affectent ces prières. Là, on entend nettement, vous l'aviez signalé, des réponses, enfin avec un chœur, un soliste. Comment ça marche exactement tout ça et qu'est-ce qu'on vient d'écouter?
Alors, dans cet extrait Wane Vavuo, on a... le principe de base, c'est que vous avez un prêtre soliste. En général, c'est la personne la plus éminente, ou alors c'est celle qui a la plus belle voix. Donc, vous avez le prêtre soliste, et vous avez un chœur de prêtre. Alors, j'aime pas non plus utiliser ce terme de prêtre qui est un petit peu connoté. En hébreu, en amharique, on dit kez. Le kez, c'est la traduction la plus proche, c'est prêtre, mais on va dire kez. Donc, vous avez un kez de solo. Et un chœur de caisse qui répondent. Alors vous avez deux manières, donc cette alternance binaire, vous avez plusieurs manières de faire avec ça. Vous avez, donc par exemple, ce qu'on vient d'entendre, c'est vous aviez la manière la plus simple qu'on rencontre dans toutes les liturgies du monde et dans tous les chants les plus simples. Vous avez le caisse qui énonce le premier verset de la prière et le chœur se contente de répondre exactement à l'énoncé du caisse. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, en musicologie, la forme antiphonale. La forme la plus simple, c'est vous avez le solo fait A et le chœur fait A.
C'est ce qu'on trouve, je crois, aussi, d'ailleurs, dans certaines liturgies déjà bibliques, enfin, en tout cas, du point de vue textuel, puisqu'on, comme vous le savez, on n'a jamais retrouvé la musique, malgré les efforts de musicologues de reconstituer cette musique. Et donc, c'est présent, cette forme antiphonale, chez les Juifs d'Éthiopie. Et quelle est la seconde forme, avant qu'on en écoute un extrait, peut-être?
Alors, on va écouter un deuxième extrait, qui, donc, si la première possibilité, c'était le chœur répond au soliste, là, cette fois-ci, nous avons la deuxième possibilité. Le chœur chante quelque chose de différent, ce qu'on appelle un répond.
D'accord. Ben, on va écouter tout de suite une prière. Donc, vous allez prononcer son nom parce que je ne vais pas me lancer dans l'amharique ou le gaz aujourd'hui. Donc, l'extrait numéro 4, c'est...
Amlak Alemé.
Amlak Alemé. Amlak Alemé. Amlak Alemé. يا كلهم معنا لا لا يا كل من دمعنا لا لا يا كل تكوزانا أتعال يا كل ذا نفسا ذلك موي ذلك رساتان تلالما وانت نتنبرتنا قسقالك وسط السماء وسط أريام من مركا لول ما دركا نتوخا زبوا من فسهوات
Amlak Alemé, donc un air de mariage. Donc vous me disiez, Olivier Tourny, que cet air affecte une forme responsoriale. C'est vrai qu'on entend bien le chœur qui répond au soliste, mais il répond pas le même texte, c'est juste une...
Alors vous avez deux manières de responsoriale, en fait. Vous pouvez avoir soit le soliste lit le premier, chante le premier verset A, et le chœur chante le deuxième verset B, ensuite le soliste le verset C, etc. Et deuxième manière de réponse, vous avez le soliste qui chante le verset A et le chœur qui répond sur une réponse traditionnelle. Ça peut être Alléluia, Amen, Yerusalemé. Ici, il dit Amna Kaleke. Et ensuite, le soliste passe au verset numéro 2, Amna Kaleke, soliste verset numéro 3, etc.
D'accord.
Donc là, on est dans cette configuration.
Et la troisième configuration formelle que vous avez découverte, parce qu'il faut bien insister sur le fait qu'avant votre étude, on ne connaissait, étude musicologique, on ne connaissait rien de ce système musical des Juifs d'Éthiopie. Donc qu'est-ce que vous avez découvert? Parce que derrière tout ça, il y a quand même des années et des années d'études.
Hein. Alors ben, écoutez, vous me tendez la perche, j'en profite quand même pour remercier encore mon maître Simcha Aharon qui m'a formé à l'ethnomusicologie, qui a été aussi votre maître et qui lui m'a conduit dans cette recherche. Alors effectivement, j'ai fait cette recherche seul, mais j'avais ce bon maître qui m'accompagnait tout au long de ces années. Alors effectivement, troisième autre possibilité, et c'est là que nous avons quelque chose de très original, une forme, au lieu d'avoir une forme AA ou une forme AB, ici on trouve une troisième forme très originale, qui se présente comme une alternance binaire, un soliste et un chœur, soliste, chœur, mais cette fois-ci, la distribution du matériau mélodique se fait de façon ternaire. Donc, on a une sorte d'ambiguïté entre l'alternance binaire des protagonistes et le matériel mélodique qui est distribué en ABC, ABC. Donc, quand on entend, vous verrez, c'est beaucoup plus facile hein, à entendre. Vous allez entendre le soliste qui commence, le chœur qui répond et le soliste qui finit le verset. Et ensuite, c'est le chœur qui reprend la même chose, le soliste qui répond et le chœur qui finit.
Alors, si vous me permettez, si j'ai bien compris, pour nos auditeurs, ça serait un peu comme une chanson où il y aurait un refrain et un couplet, et au lieu que le couplet soit toujours interprété par le chœur et le refrain par le chanteur, il y aurait une alternance, en fait, où il y aurait le refrain et le couplet qui seraient chantés donc par le soliste, par le chœur, et ensuite le refrain serait chanté une fois par la première fois par le soliste, et après on inverserait, ce serait le chœur, etc., etc.
On pourrait le présenter comme ça, parce qu'en fait, on a plusieurs cas de figure, plusieurs distributions possibles. En fait, la forme nous donne beaucoup de combinaisons possibles, et les Juifs d'Éthiopie se font un plaisir de toutes les utiliser.
Alors, je vous propose d'écouter donc cette forme hémiolique.
Madawra zina, 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 madawra zina,
Donc Hervé, là, vous voyez, on vient d'entendre la pièce Kiliet Salat, qui est utilisée les matins de Shavuot. Et donc là, vous avez vu la troisième possibilité de chanter ici, qui est une forme une structure très originelle et complexe. Et longtemps, j'ai cherché en Éthiopie l'équivalent et j'ai jamais trouvé. Donc pendant longtemps, j'ai considéré qu'elle était spécifique au Béta Israël. Alors, pour revenir à ces trois formes, ce qui est intéressant, et ça fait partie des joies du travail de terrain, vous connaissez bien la question, la culture explique ces trois formes par trois usages différenciés, et en fait, vous allez comprendre que c'est en fait tout simple. Tout morceau peut être utilisé selon les trois formes. Ça dépend du contexte. Le contexte le plus simple, vous avez un grand prêtre qui vient dans le village. Par honneur pour ce grand prêtre sera le soliste. Et donc, par respect pour lui, on va utiliser la première forme, c'est-à-dire le grand prêtre soliste va faire A, et comme ils disent, pour ne pas marcher sur la tête du grand prêtre, c'est-à-dire par grand respect et par dévotion, le cœur va se contenter de répondre, et donc va utiliser la première forme A, A. Deuxième possibilité, on est aussi dans le judaïsme, parfois, et même souvent, on est contraint aux conditions du jour et de la nuit. Il faut finir la prière avant le lever du jour, ou avant la tombée de la nuit, ou après la tombée de la nuit. Donc, il y a une contrainte temporelle. Donc, si vous êtes pressé, si les prêtres voyaient qu'ils étaient pressés, ils prenaient la deuxième formule. Le soliste chantait le premier verset, le chœur le deuxième, le soliste le troisième, etc. Ça permettait d'accélérer un petit peu.
Ça allait deux fois plus vite, en quelque sorte.
Ça allait deux fois plus vite. Et troisième possibilité, donc cette forme hémiolique très particulière et très étendue. En fait, il l'utilisait essentiellement pour les grandes fêtes, et il l'utilisait aussi parce qu'il considérait à juste titre cette forme comme la plus belle. Alors, d'ailleurs, c'est assez étonnant, quand on a fait les enregistrements à Jérusalem en 89, les prêtres ont chanté essentiellement sous cette forme. Quelque part pour avoir un souvenir, notre travail était de sauvegarder cette musique, on en parlera tout à l'heure quand on va parler de l'Alia, sauvegarder cette musique, et donc pour eux c'était essayer de la rendre la plus belle possible, c'est-à-dire sous cette forme.
Et ça c'est passionnant ce que vous nous dites là, parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on connaît de beaucoup de musique africaine, c'est-à-dire c'est des musiques de l'instant. Et ce qui veut dire qu'il y a un libre arbitre sur le choix de la forme, en fait. On ne sait jamais comment chaque prière va être chantée. C'est un peu un mystère. Vous avez dû être très désarçonné quand vous avez entendu, par exemple, une même prière qui se réalisait de façon formelle différente.
Oui, alors je vous raconte pas toutes les aventures qu'on a eues avec Simcha Aharon, parce qu'on peut trouver un même texte avec des musiques différentes ou une même musique pour différents textes. Donc effectivement, là, quand on nous disait, ben oui, on va chanter. Alors bien sûr, il disait pas antiphonal, mais on va chanter, le prêtre va chanter et le chœur va répondre. Et puis deux jours après, il chantait sous une autre forme. Donc en fait, effectivement, en Afrique, il y a cette souplesse qu'on rencontre, cette vitalité de la musique, cette beauté aussi, mais la raison, elle est toujours, il y a toujours une raison, une pertinence, comme dirait Simcha Aharon, c'est-à-dire une raison simple, on a le temps, on chante, on prend le temps pour chanter, on n'a pas le temps, on accélère, et par respect, on prend la première formule.
Alors j'ai envie de vous poser encore une question, là on entend bien que c'est un chant à plusieurs voix, mais est-ce que c'est vraiment de la polyphonie comme on l'entend au sens occidental du terme, comme les polyphonies, vous savez, qu'on a vu le jour à partir de la Renaissance et même avant? Est-ce que c'est vraiment cette polyphonie avec superposition de voix différentes qu'on entend là?
Alors non, malheureusement non. Enfin, malheureusement, on pense qu'on nous donne. Cela dit, on retrouve encore cette Afrique qui est un peu dans les veines de cette musique et cette souplesse. En fait, d'un point de vue purement théorique, les prêtres devraient chanter exactement la même chose au même moment, c'est-à-dire ce que nous on appelle une monodie, ou quand c'est rythmé, une monorythmie. Eux, ils chantent dans ce qu'on appelle de l'hétérophonie, c'est-à-dire, c'est un mot très savant pour dire qu'en fait c'est la pagaille, on démarre plus ou moins en même temps, et on finit plus ou moins en même temps.
Bah, voilà. Ça, c'est à la limite, c'est comme dans tous les lieux de culte juifs, en fait. Ah, oui, oui, à ce titre-là, les bétails grecs sont des juifs comme les autres.
Très synagogue. Non, ça, c'est sûr.
Donc,
cela dit, un dernier aspect, la culture explique aussi cela. En disant aussi, bah, dans les enregistrements que nous, on avait fait à Jérusalem, il y avait des gens qui venaient de régions différentes. Donc, vous n'avez pas non plus toujours l'habitude, vous avez toujours des petites spécificités, des variantes de telle ou telle région. Donc, ce qui fait que, parfois, on entend un petit peu, ça va même presque jusqu'au brouhaha. Mais, la culture permet, finalement, une dernière possibilité, c'est, on vous autorise à chanter différemment, mais il faut que ça soit très discret. Et il faut que la majorité chante quand même comme les autres. Donc, on est ici, quelque part, à la porte de la polyphonie, mais sans jamais y entrer.
Alors, je vous propose d'écouter un extrait qui va nous démontrer, on ne peut mieux, comment fonctionne cette hétérophonie. Bella Watsigavi, un chant du Shabbat qui clôture le repas de Shabbat exactement, et on entend très nettement comment on a cette espèce d'épaisseur vocale, en fait, qu'ils ont bien tous en tête la même mélodie, mais qui a une espèce d'épaisseur due à des décalages, des variantes, enfin voilà, des voix qui se superposent. Comment ça marche en fait au niveau de la mélodie, puisqu'on parle de mélodie, de système mélodique, parce que ce qui est étonnant dans cette musique, c'est à la fois sa diversité, sa variété, et en même temps on a l'impression qu'on entend toujours, vous me pardonnerez, mais un peu toujours la même chose. Alors c'est dû à quoi ça?
Écoutez, vous êtes musicologue, donc vous savez très bien que effectivement ça, c'est un petit peu toujours pareil sans être jamais pareil. Alors ça a été un gros travail qui m'a pris peut-être 2 années de ma vie, où j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait le système mélodique. Et puis, à force d'études, de patience, j'ai trouvé la clé. En fait, ici, ça marche comme un patchwork musical, on appelle ça la syntonisation, où vous avez, avec 8 petites cellules mélodiques, vous pouvez fabriquer toute cette musique. En fait, c'est un système très économe. Vous prenez une formule A, une formule B, une formule C, vous avez un chant. Vous prenez ces 3 formules dans un ordre différent, A, C, B, vous avez un deuxième chant.
Mais là, moi, ce que vous racontez, ça me rappelle des histoires de tailleurs qui récupèrent des tissus, puis qui, en les mélangeant, ils peuvent faire je ne sais combien de modèles de vêtements différents.
C'est pour ça que j'ai parlé de patchwork. Parce qu'effectivement, ça marche exactement comme ça. Et pratiquement même, quand vous avez compris le système, parce que vous êtes musicien, moi aussi, quand vous avez compris le système, bah, à la limite, vous êtes même dans la capacité, pratiquement, de composer de la musique liturgique juive. Alors, j'avais essayé une fois, et puis les prêtres, ils m'ont dit, au lieu d'essayer de composer des choses, tu ferais mieux de chanter ce qu'on t'a appris et de chanter déjà bien.
Ouais. C'est passionnant. Et alors, ce procédé de syntonisation dont vous parlez, sans rentrer dans le détail, ça existe aussi dans d'autres liturgies juives. Peut-être moins, enfin, c'est peut-être pas de façon aussi économique que chez les juifs d'Éthiopie, parce que 8, c'est quand même très très peu comme stock de formules. Et alors, ce qui est aussi un peu différent dans cette liturgie des Juifs d'Éthiopie, c'est l'échelle sur laquelle ils chantent, c'est-à-dire en quelque sorte la gamme, en simplifiant un peu pour nos auditeurs. Quelle est cette échelle?
Alors, c'est une échelle qu'on rencontre un peu partout dans le monde. C'est une échelle pentatonique, c'est-à-dire qui est composée de 5 sons. Pour trouver un équivalent, on dirait sol, la, si, ré, mi. Un pentatonique très courant, qu'on retrouvait même en Europe, chez nous. Ce qui est intéressant chez les Juifs d'Éthiopie, c'est que on a une seule échelle. Donc, un pentatonique relativement souple, mais on a une échelle unique. Et alors, pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai fait une étude comparée à l'église chrétienne d'Éthiopie. Et comme par hasard, chez les chrétiens d'Éthiopie, on trouve trois échelles qui sont dénommées le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, je vais vous faire écouter un petit extrait du chant des psaumes chanté par les chantres de l'église chrétienne, où ici on aura deux échelles différentes. Alors, chez eux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont incarnés par une échelle pentatonique. Non, le Père, c'est une échelle tritonique, on a trois sons. Le Fils, on a une échelle pentatonique, équipentatonique, c'est-à-dire où on divise l'octave en cinq parties égales, et vous avez une troisième échelle, le Saint-Esprit, qui est une échelle pentatonique normale. Vous voyez là, Hervé, qu'on a une ambiance complètement différente, du fait d'échelles complètement différenciées. Alors, je voudrais dire, je ne résiste pas à vous dire quelques mots sur justement cette différence entre les Béta Israël et l'Église. On a, là, comme les chrétiens disent qu'au début ils étaient tous juifs, donc on pourrait penser que la musique des chrétiens vient de l'Église. Ceux qui parlaient de la théorie de conversion diraient, non, c'est le contraire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est cette différence, toujours cette différence entre les chrétiens et les juifs, comme si chacun connaissait la culture de l'autre. Alors, par exemple, dans les instruments, à l'église, vous avez un instrument à simple membrane qui s'appelle le kabaro, qui est un instrument très connu en Éthiopie, qui est l'instrument de l'église. Or, chez les juifs, le kabaro n'est pas utilisé à la liturgie, il est utilisé pour tout ce qui est profane. À l'inverse, vous avez le nagarit, qui est un instrument à simple membrane, une sorte de grand tambourin qui est utilisé uniquement en contexte liturgique chez les juifs, et cet instrument était réservé à la royauté d'Éthiopie, et pas du tout à l'église, une sorte de manière de montrer de la part des juifs d'Éthiopie qui était leur vrai roi.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, d'autant plus que je crois que certains, notamment une musicologue, les travaux d'une musicologue avaient eu tendance à rapprocher la musique des chrétiens d'Éthiopie avec la musique juive d'Éthiopie, et ça avait fait polémique, notamment lors de l'alia des juifs d'Éthiopie en Israël, puisque s'était posée la fameuse question, est-ce que ce sont des juifs ou non? Alors, cette musicologue avait tendance à montrer que ces musiques étaient semblables, musique chrétienne et musique juive d'Éthiopie. Vous démontrez que absolument pas. Et je voudrais justement revenir sur cet alia. Qu'est-ce que ça a changé? Comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce que ça a changé pour ces Juifs d'Éthiopie, cet alia en Israël?
Alors, comme vous pouvez imaginer, cet alia, ça a été un grand bouleversement dans la vie de cette communauté, un grand bouleversement à tous les niveaux. Alors, un bouleversement économique. Les Juifs d'Éthiopie étaient des paysans, ils étaient au bas de l'échelle sociale en Éthiopie. Et subitement, ils arrivent dans un pays occidentalisé, développé, moderne. Et donc, ça leur a posé quand même quelques problèmes. Et d'ailleurs, je vous renvoie à un ouvrage qui a été écrit par notre collègue Lisa Antebi sur l'Alia, sur cette période d'Alia, qui est particulièrement intéressante.
Donc ça, est-ce qu'on peut rappeler les trois dates principales de l'Alia? Je crois que c'est 1985 pour la première Alia, où il y a eu, je crois, quelque chose comme 7000 juifs d'Éthiopie qui sont arrivés en Israël, suivi d'une autre Alia en 86, mais là ils étaient en nombre beaucoup plus restreint, 700-800. Et puis la grande Alia de 1990 qui, elle, a ramené en Israël, je crois, quelque chose comme 14000 juifs d'Éthiopie.
Oui, 14000 en 24 heures. Donc c'était j'étais à cette époque en Israël, et c'est effectivement tout ce qui volait, tout ce qui pouvait voler, l'armée israélienne est allée chercher ces juifs d'Éthiopie en Éthiopie, à Addis Abeba. Alors, on avait parlé au début de l'alliance israélite. Feklovitch avait fait venir quand même quelques Éthiopiens au début du XXe siècle, un petit peu partout dans différentes familles d'Europe. Donc, on a d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'était très émouvant pour les caisses. On a le premier enregistrement de musique juive à la Phonothèque nationale d'Israël en 1907. Sur disque, sur cylindre de cire.
Et est-ce que ça ressemble à ce que vous avez vous enregistré, puisque vos enregistrements datent des années 90, je crois. Hein,
alors
près.
Justement, il y a très peu de chants. Il y a un chant qui est extrêmement proche de ce qu'on a pu chanter, et les prêtres ont chanté un kaddish, en l'honneur de leur ancêtre qui était en Israël depuis 1907. Alors cet alia en Israël. Au début, c'est mal passé, parce que du fait de la spécificité du judaïsme éthiopien, ben, on leur a recommandé de revenir à un judaïsme normatif. En d'autres termes, tout ce qui faisait leur tradition, leur spécificité, on leur demandait de garder ça à la maison. Donc au début, il y a eu une grande difficulté pour les juifs d'Éthiopie, ben, de s'adapter. Ils allaient à la synagogue marocaine ou tunisienne de leur quartier. Et puis maintenant, comme vous le disiez, j'ai fait des nouvelles enquêtes, parce qu'en fait, là, nous fêtons les 20 ans de leur alia, cette grande alia, et la situation, elle est la suivante. Nous avons trois courants. Nous avons les anciens, ceux qui continuent à prier et à chanter selon le rite de leurs ancêtres, qui ont construit des synagogues un peu partout en Israël. Vous avez ce qu'on pourrait appeler les modernes, qui, eux, ont fait le choix du judaïsme normatif. Beaucoup sont devenus rabbins. D'ailleurs, j'ai un ami éthiopien qui est le premier rabbin éthiopien d'une synagogue ashkénaze. Et vous avez une sorte de compromis entre essayer de regrouper la communauté dans une même maison de prière, essayer de conjuguer l'ancien et les modernes.
C'est ce que vous appelez le post-moderne. Ben écoutez, cette émission est passionnante. Je vous propose d'écouter donc un dernier extrait très joyeux que l'on chante et que l'on danse d'ailleurs pour les fêtes de Yom Kippour ou Wafet Semo. Wafet Semo, chant et danse des Juifs d'Éthiopie, extrait celui-là d'un livre que j'ai publié chez Actes Sud qui s'appelle Musique liturgique juive. Et chers amis, ben, notre émission touche à sa fin. Olivier Tourny, merci infiniment pour tout ce que vous avez apporté à nos éditeurs ce soir, et en espérant que vous leur avez donné la curiosité d'aller plus loin
et de
lire votre livre. Je redonne les références de votre livre. Donc Olivier Tourny, Le chant liturgique juif éthiopien, analyse musicale d'une tradition orale, publié aux éditions Peters. Et vous retrouverez ces références ainsi que nos émissions précédentes sur le site du Centre français des musiques juives, www.cfmj.fr. Si vous souhaitez réécouter cette émission, les précédentes également, réagir aux propos de notre invité ou proposer même des thèmes pour les prochaines émissions, vous pouvez nous contacter par mail hroten@cfmj.fr ou par téléphone au 09 77 71 96 57. Je répète, 09 77 71 96 57. Pour nous accompagner ce soir, nous avions le plaisir de recevoir Olivier Tourny, musicologue. Présentation Hervé Roten, producteur de cette émission, et David à la technique. Le Centre français des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Roten.
Sugar.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were much